Grand reportage.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
De chaque côté de l'échiquier politique, il y a des partis qui sont constamment en compétition en matière d'immigration. Ils relaient des histoires sur la criminalité des immigrés, ils créent leur propre réalité. Et ça a fini par déplacer le centre de gravité de la politique danoise. Le discours d'extrême droite s'est imposé comme la pensée dominante.
Le Danemark, dans les années 80, en ouvrant grand ses portes aux réfugiés, faisait figure de modèle en matière de politique migratoire. Mais la montée des populismes en Europe a changé la donne et les autorités danoises n'ont cessé de durcir les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il y a quelques mois, les sociaux-démocrates danois sont devenus les premiers en Europe à décréter que la région de Damas, en Syrie, était désormais sûre. Ils révoquaient les permis de séjour de plusieurs dizaines de familles. Au Danemark, les réfugiés syriens sacrifiés sur l'autel de la répression migratoire. Un grand reportage signé Vincent Souriot.
On est dans le train pour Ringsted, une petite commune résidentielle dans la périphérie de Copenhague. On a rendez-vous avec Asma et Omar Al-Natour. C'est un couple de Syriens, ils ont une quarantaine d'années. Ils ont fui la guerre et ils sont arrivés au Danemark il y a 7 ans, en 2014. Jusqu'ici, tout allait bien. Mais le 26 février 2021, ils ont reçu une lettre du ministère de l'Immigration qui dit la chose suivante. Damas et sa région ne présentent plus de danger. Votre permis de séjour n'est pas renouvelé. Nous vous invitons à rentrer en Syrie. On est dans un petit appartement au rez-de-chaussée, tout près de la ligne de train. Asma et Omar nous accueillent dans leur salon. On va éteindre la télé. On va boire un thé, apparemment. Merci. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots comment vous êtes arrivé au Danemark ?
On vivait sous la dictature de Bachar et la guerre a éclaté. On a perdu nos deux maisons sous les bombes, celle de Damas et celle de Dera, et on n'a jamais pu retrouver un endroit sûr. C'est pour ça qu'on est parti. En fait, on a fait le voyage de la mort. On a fui la mort en Syrie et on s'est retrouvé capturé par des passeurs en Libye pendant 2 mois. Ensuite, on s'est frayé un chemin vers l'Europe. On est passé par l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne et on est arrivé ici au Danemark et on est resté 9 mois dans un camp à côté de la frontière allemande. Et maintenant, on a cette lettre qui nous dit que notre permis de séjour n'est pas renouvelé, qu'à partir de maintenant, la région de Damas est sûre et qu'on doit y retourner.
Qu'est-ce qui va se passer si vous repartez ? Vous attendez à quoi ?
Il n'y aura pas de conséquences, parce que je ne retournerai pas en Syrie. Je reste au Danemark, point barre, et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons que j'y retourne. On est recherchés tous les deux, donc ils vont nous arrêter dès qu'on arrivera. Ils vont nous tuer, et ils auront sans doute pris le temps de me violer sous les yeux de mon mari. Ensuite, ils ne rendront même pas nos dépouilles à nos proches. On ne sera que des numéros. Oui, ici, ils nous mettent la pression et on n'a pas une vie facile. Mais je préfère mourir ici, au Danemark, d'une mort lente que d'aller me faire exécuter en quelques jours par le régime syrien.
Alors Omar vient de sortir son téléphone portable. Il veut nous montrer une vidéo pour illustrer ce qu'Asma vient de nous dire. C'est une vidéo qui tourne sur Facebook, c'est ça ? Oui, dans la communauté syrienne au Danemark. Et c'est visiblement un homme d'une trentaine d'années qui parle et c'est filmé à Damas.
Merci l'Europe. À vous tous qui avez fui la Syrie, revenez ici, vous allez vivre l'enfer. Vous êtes contents d'avoir fui le régime ? Bande de fils de pute ! Traîtres, terroristes. Enfin, l'Europe vous abandonne. J'espère que vous êtes en train de faire vos bagages. On va bien vous recevoir.
C'est vrai que quand on entend ça, on se demande quand même si le gouvernement danois a bien pris la mesure du problème, encore maintenant, 10 ans après les printemps arabes. Vous pensez que les autorités sont un peu déconnectées de la réalité ?
À mon avis, c'est juste de la politique. Il y a deux choses. Soit c'est pour les élections avec les municipales qui arrivent à la fin de l'année, ou alors ils se coordonnent et ils travaillent avec le régime de Bachar. Et ça, ce serait encore pire. Franchement, de manière générale, les Danois sont gentils et polis avec nous. On est bien ici. Individuellement, les gens nous traitent bien. Mais la classe politique, elle, n'est pas à la hauteur. C'est eux qui nous font du mal.
Vous savez que si vous refusez de partir en Syrie, on ne peut pas vous y obliger, mais vous serez placé dans un camp de rétention.
C'est ça, ils veulent qu'on reparte. Mais ils ne peuvent pas nous forcer à repartir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est nous mettre dans ces camps. C'est une manière de nous intimider pour qu'on prenne l'argent qu'ils nous donnent et qu'on quitte le Danemark. Mais moi, dans tous les cas, je fais ce que j'ai toujours dit. Je reste auprès de mes enfants qui sont ici.
On quitte Ringsted, il faut qu'on file à Copenhague dans les locaux du Danish Refugee Council. C'est le Conseil danois des réfugiés. C'est une ONG très importante, plus de 6000 employés dans le monde. Elle est spécialisée dans les questions migratoires. Ils ont la particularité de gérer plusieurs camps de déplacés syriens en Turquie et en Jordanie. Et nous, on va voir la secrétaire générale. Elle s'appelle Charlotte Slente.
Nous pensons qu'il est beaucoup trop tôt pour renvoyer les réfugiés syriens chez eux. Et si on le dit, c'est que l'on se base sur plusieurs rapports des Nations Unies. Le Haut Commissariat pour les réfugiés établit très clairement qu'aucune région de Syrie n'est sûre pour les déplacés. Et il demande aux pays qui les accueillent de ne pas les expulser avant que tous les risques soient levés. Or, on les connaît ces risques, ce sont des violations pures et simples des droits de l'homme. Arrestations, harcèlement, disparitions inexpliquées, tortures. Le simple fait que ces risques existent devrait peser très lourdement dans la manière dont les autorités danoises gèrent la question des réfugiés syriens et celle de leur permis de séjour. D'autre part, à l'heure actuelle, le Danemark n'a pas de relations diplomatiques avec le régime de Bachar el-Assad, qui n'est pas considéré comme une autorité légitime en Syrie. Cela signifie qu'on ne peut expulser personne de force. Il n'y a pas de traité d'extradition entre le Danemark et le régime syrien, puisqu'il n'y a pas de relation officielle entre les deux pays. Autrement dit, pour les réfugiés qui refuseraient de rentrer chez eux, c'est la promesse d'être placés dans des centres de rétention et de bouleverser leur vie pour, en réalité, ne rien faire qu'attendre indéfiniment, puisque le Danemark n'a aucune perspective de pouvoir les renvoyer à court ou moyen terme. On est obligé de se poser la question. Pourquoi prenez-vous cette décision alors même que son application est impossible ?
Depuis des semaines, il y a une mobilisation citoyenne contre la politique migratoire du gouvernement. Ça se passe sur le parvis de l'hôtel de ville de Copenhague, on y est. Et il doit y avoir aujourd'hui environ 10 000 personnes qui sont venues soutenir les réfugiés syriens avec des pancartes en forme de cœur rouge. Le message est assez clair, on vous aime, c'est aussi simple que ça. Il va y avoir plusieurs prises de parole, des personnalités du monde de la culture et surtout des jeunes réfugiés syriens qui vont monter sur scène pour partager leur histoire. Nous, pour l'instant, on est avec Trine qui est venue manifester avec une amie. Il y a quand même un paradoxe, sur le papier en tout cas, le Parti social-démocrate qui est au pouvoir depuis 2019, se revendique de gauche, mais c'est ce gouvernement qui prend les décisions les plus radicales en matière d'immigration. Comment ça se fait ?
Ce qui est évident, c'est que le Parti social-démocrate a gagné des voix de l'électorat nationaliste et populiste. Ils ont aspiré une partie des électeurs du Parti du peuple danois, l'équivalent chez nous du Rassemblement national. Et maintenant, on en paie le prix. On avait, il y a 25 ans, un Premier ministre social-démocrate qui disait que le Danemark était un modèle d'humanisme et que le jour où l'on arrêterait de tendre la main aux autres, on serait perdu. Aujourd'hui, ce discours a complètement disparu.
Dans Dans la foule, il y a de tout, des pères de famille avec leurs gamins sur les épaules, des étudiantes venues à vélo, des quinquagénaires très propres sur eux, et ces familles syriennes qui risquent de tout perdre. Beaucoup de larmes et beaucoup d'émotions au moment où les musiciens reprennent un classique de la chanson syrienne.
On peut juste venir ici et manifester. Il n'y a pas d'autre solution. Je n'y connais rien à la politique. Mais ce que je vois aujourd'hui, avec le monde qu'il y a ici, c'est que les gens commencent à montrer qu'ils sont solidaires et qu'ils nous comprennent. À la base, je me disais que les Danois ne sauraient même pas placer la Syrie sur une carte, mais ça me rend optimiste. Il y a des manifestations à Copenhague, mais en province aussi. Je crois qu'il y a 23 rassemblements dans tout le Danemark. Ils commencent à nous comprendre, et ça fait du bien.
Il y a un homme après qui on a couru toute la semaine, il s'appelle Rasmus Stocklund, c'est le porte-parole du gouvernement sur les questions d'immigration, mais il est très occupé, il n'a jamais répondu à nos sollicitations. Heureusement, il y a une équipe de télévision qui a fait le déplacement au Danemark exprès pour le voir. C'est la chaîne saoudienne Al Arabiya qui vient l'interviewer, c'est l'un des médias les plus écoutés dans le monde arabo-musulman, et on va pouvoir assister à l'entretien. Ça se passe à l'intérieur du Folketing, le parlement danois. Et pour commencer, on va essayer de se glisser dans l'hémicycle. C'est un hasard, mais le débat du jour au Parlement, c'est pas loin de notre thème, c'est sur la liberté religieuse. Allez, on va rejoindre la journaliste Zena Hadi, qui va poser les questions à Rasmus Stocklund. On va lui demander à Zena pourquoi elle a choisi de traiter ce sujet très spécifique des réfugiés syriens menacés d'expulsion au Danemark.
Je suis Zena Hadi, je travaille pour la chaîne Al Arabiya. Ce sujet très inquiétant pour notre téléspectateur parce que en fait pour eux tout ce qui concerne la Syrie ils s'intéressent, surtout aussi la réaction des pays européens parce que ça fait 10 ans tous les pays ils ont coupé la relation avec le régime de Bachar, mais aujourd'hui ils demandent de faire retourner les gens. Pourquoi aujourd'hui Bachar il est réélu pour le troisième mandat? Comment les Syriens ils feront rentrer aujourd'hui s'il n'y a pas de changement? Et du coup, les téléspectateurs, je pense, ils ont touché par le sujet parce que c'est un sujet humanitaire, parce que aussi les pays voisins de la Syrie, ils ont touché économiquement par rapport à ça. Et la politique aussi. Il y a pas mal des problèmes politiques aujourd'hui à cause de tout ce qui se passe en Syrie.
Merci Zena, c'est l'heure, on va la laisser travailler. Rasmus Stocklund vient d'arriver, il a l'air très pressé. Il est grand, il a un dossier sous le bras et il est en train de se préparer pour l'interview. Zena va poser les questions en arabe, elles seront traduites et il va répondre en anglais. Elle lui demande pourquoi le Danemark veut renvoyer les Syriens en Syrie.
Le principe de notre politique vis-à-vis des réfugiés, c'est que nous sommes d'accord pour les protéger, mais dès l'instant où ils n'ont plus besoin de protection, il faut qu'ils rentrent chez eux. On est prêt à dépenser de l'argent dans le monde entier, dans les camps de réfugiés par exemple, où les gens ont besoin d'avoir accès à des denrées de base, à l'eau, à la sécurité sanitaire, à l'éducation des enfants. On préfère financer ce genre de programme et toucher un maximum de monde à l'extérieur du Danemark plutôt que de payer ici pour un petit nombre de personnes. Pour nous, c'est comme ça qu'on va faire la différence et c'est le cœur de notre objectif zéro réfugié, accueillir moins de gens au Danemark pour aider plus de gens à l'étranger. And then helping more people out in the world.
Pourquoi vous traitez les réfugiés de manière inhumaine alors qu'ils constituent un atout pour votre pays et votre économie?
Je pense que nous traitons bien les réfugiés. Aussi longtemps qu'ils sont ici, ils ont accès à l'éducation, ils perçoivent de quoi s'acheter de la nourriture et des vêtements, on leur donne un toit, etc. Mais ils ont très peu de succès en matière d'insertion professionnelle. Bien sûr, certains réfugiés ont très bien réussi. Mais si l'on prend par exemple les femmes syriennes présentes au Danemark, dans 7 cas sur 10, elles sont sans emploi. On ne peut pas parler de succès.
C'est ça la ligne des autorités danoises. On veut zéro réfugié, mais on veut bien dépenser de l'argent pour les aider dans les camps ou dans leur pays d'origine. Puisqu'on est au Parlement, on va essayer d'attraper un député d'opposition. Et j'en vois un qui est là, c'est Jens Rode. C'est un chrétien démocrate.
Je regrette vraiment la position danoise, avant tout parce qu'on parle d'êtres humains qui paient un très lourd tribut, et ensuite parce que le Danemark était connu autrefois pour sa responsabilité internationale. Aujourd'hui, nous sommes seuls. Nous sommes le seul pays d'Europe à prendre une décision pareille. C'est terriblement regrettable. De chaque côté de l'échiquier politique, il y a des partis qui sont constamment en compétition en matière d'immigration. Chaque mois, voire chaque semaine, c'est à qui sera le plus dur, qui aura le courage, la force de défendre le peuple danois contre les immigrants. Mais le plus frappant, c'est que les électeurs sont fatigués de ces thématiques et de cette course à l'échalote. Si vous regardez les sondages, depuis quelques années, l'immigration n'est plus en pole position de leurs préoccupations, mais certains groupes politiques font tout pour entretenir le débat. Ils relaient des histoires sur la criminalité des immigrés, ils créent leur propre réalité. Et ça a fini par déplacer le centre de gravité de la politique danoise. Le discours d'extrême droite s'est imposé comme la pensée dominante. C'est ça qui se passe au Danemark. Et si vous pensez à ce qu'il s'est passé dans l'histoire, c'est un processus très dangereux.
Back into history, that's a very, very dangerous process.
On a du mal à y croire. C'est vrai qu'en Europe, si vous posez la question dans la rue, le Danemark a toujours la réputation d'être une terre d'accueil. Mais en réalité, c'est plus du tout le cas depuis le début des années 2000. Ça fait pratiquement une génération que les politiques publiques sont de plus en plus sévères. Et on se demande s'il ne faut pas carrément parler de répression migratoire. On va aller poser la question à un spécialiste, Thomas Gammeltoft Hansen. Il enseigne le droit de l'immigration à l'université de Copenhague et il nous attend à la cafétéria universitaire. On va lui demander à quel point le Danemark, à travers ses textes de loi, a vraiment érigé des murs pour éloigner les demandeurs d'asile.
Pendant des années, de très nombreux chercheurs y ont vu des mesures symboliques, davantage destinées à apaiser l'électorat danois qu'à faire une véritable différence. Mais si l'on s'intéresse aux chiffres, et en particulier à la dynamique des demandes d'asile depuis 2001, on s'aperçoit très vite que, petit à petit, le nombre de dossiers déposés au Danemark est tombé sous la moyenne de l'Union européenne. Et que, lorsque ce nombre remonte, comme ce fut le cas dans la foulée des printemps arabes, eh bien, il remonte beaucoup moins chez nous que chez nos voisins allemands ou suédois. En réalité, si vous étudiez ça sur une période de 20 ans, vous voyez à quel point ces mesures ont ce que j'appelle un effet dissuasif indirect. Elles rendent la demande d'asile au Danemark beaucoup moins séduisante que dans d'autres pays. Et elles servent à construire l'image d'un Danemark très sévère en matière d'immigration. Nos recherches montrent qu'il n'y a pas que les restrictions en elles-mêmes. C'est aussi cette perception négative d'un pays fermé qui aide à réduire ces chiffres et à les maintenir au plus bas. En économie, on appelle ça la politique du chacun pour soi. En vous rendant moins attractif, vous espérez que les pays qui vous entourent accueilleront beaucoup plus de réfugiés que vous-même.
So by making yourself less attractive, you hope that your neighboring countries will receive many more refugees than you do yourself.
Ça fonctionne, difficile de dire le contraire. Les chiffres se sont écroulés. Il n'y a jamais eu si peu de demandes d'asile au Danemark. 600 personnes ont obtenu des papiers l'an dernier. C'est 15 fois moins qu'il y a 5 ans. Et c'est parti pour durer.
Au Danemark, les réfugiés syriens sacrifiés sur l'autel de la répression migratoire. Un grand reportage de Vincent Souriau. Réalisation Eva Piedel.